Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La Russie et la Turquie s'accordent pour créer une zone démilitarisée à Idlib en Syrie. Mise en place d'ici un mois, elle doit permettre aux civils d'éviter les combats. Dans ce journal, vous entendrez le témoignage de Syriens qui, eux, ont choisi de revenir dans leur pays. Présentation aussi des grandes lignes du plan santé. Le gouvernement français souhaite réduire les déserts médicaux. Une infirmière nous expliquera pourquoi les hôpitaux dans ces zones font plus qu'ils ne devraient. Et puis les cheminots négocie de nouveau la convention collective du ferroviaire cette fois. Il est question de modifier, de regrouper certains métiers, vous l'entendrez. Le ministère russe de la Défense annonce ce matin que l'un de ses avions militaires, avec 14 personnes à bord, a disparu des écrans radars au-dessus de la Syrie. Il précise que les forces israéliennes et françaises menaient au même moment des frappes aériennes contre des objectifs en Syrie. Washington affirme de son côté que cet avion a été abattu par erreur par les batteries anti-aériennes des forces syriennes alliées de Moscou. Moscou et Ankara, qui discutaient justement de la Syrie hier et du sort de la province d'Idlib, Russes et Turcs se sont mis d'accord pour créer une zone démilitarisée de 15 à 20 km de large à proximité d'Idlib, où sont réfugiés, rappelons-le, plus de 3 millions de civils et quelques milliers de djihadistes. Le régime syrien devrait donc se contenter de la reconquête des deux tiers du territoire seulement. Ailleurs, Bachar el-Assad joue déjà la carte de la normalisation. Il organise par exemple le retour des réfugiés des pays limitrophes. Hier, ils sont près de 500 à avoir quitté le Liban voisin pour rentrer en Syrie. Un rapatriement sur la base du volontariat auquel a assisté Aurélien Colli.
Il s'appelle Mohamed, il a 42 ans, originaire d'Alep, il est arrivé au Liban en 2013. D'abord un camp de réfugiés, ensuite une maisonnette qu'il a pu louer dans la montagne libanaise en travaillant comme manutentionnaire. Ici il y avait un peu de travail, mais j'étais pas payé plus de 300 dollars. Comment tu peux faire vivre une famille, explique le père de famille. Si Mohamed est volontaire pour rentrer, c'est parce que ses parents restés en Syrie lui ont dit que la situation s'était améliorée et qu'à son âge il ne risque pas d'être enrôlé de force dans l'armée du régime. Assise à quelques mètres, entourée de baluchons, sa femme Rima aussi est fatiguée de cet exil. 5 enfants à nourrir, alors ses 2 aînés ont dû travailler et les 3 autres restaient à la maison au lieu d'être à l'école. J'ai fait toutes les démarches pour les inscrire, mais personne ne les a acceptés. Il y avait des écoles, mais il fallait payer, raconte la mère qui appréhende quand même ce retour. Oui, bien sûr, c'est mieux de rentrer, mais la crainte c'est que la situation ne soit pas meilleure là-bas. La vie quotidienne, la sécurité, le logement, les écoles, reconnaît-elle, sous le regard d'agents du Haut Commissariat aux réfugiés. L'agence de l'ONU ne soutient pas ces rapatriements, volontaires certes, mais trop rapides, financés par Damas et encadrés par un État libanais pour qui ces réfugiés restent un fardeau sur une économie nationale déjà si fragile. Des départs au compte-gouttes, 4000 depuis 5 mois, sur plus d'un million de réfugiés dans le pays.
Aurélien Colli depuis Beyrouth pour France Culture. Donald Trump revient à la charge contre les importations chinoises aux États-Unis. Il vient d'annoncer la taxation de 200 milliards de dollars supplémentaires d'importations pour punir Pékin des pratiques commerciales déloyales, selon lui. Près de la moitié des importations chinoises aux États-Unis seront donc bientôt taxées à hauteur de 25% d'ici la fin de l'année. Donald Trump défie la Chine de riposter sous peine de représailles immédiates. Moon Jae-in a atterri ce matin à Pyongyang pour le 3e sommet intercoréen en 6 mois seulement. Il rencontre le leader nord-coréen Kim Jong-un pour parler dénucléarisation de la péninsule. Partons maintenant en Espagne où le chef du gouvernement veut en finir avec les privilèges juridiques des responsables politiques. Pedro Sanchez propose une réforme de la Constitution qu'il veut adopter en 60 jours, pas plus. Une manière de démontrer sa détermination à lutter contre la corruption. Les parlementaires, les élus et les policiers pourraient donc ne plus être jugés par une cour supérieure, mais par un tribunal ordinaire, Mathieu de Taillac.
Il n'y a pas en Espagne une immunité parlementaire comme en France. Tous les élus au Parlement espagnol, comme dans les chambres régionales, peuvent être jugés sans que les assemblées n'aient à donner leur avis. Cependant, ils bénéficient de ce qu'on appelle en espagnol un aforamiento, c'est-à-dire le bénéfice d'être jugé non pas par les tribunaux ordinaires, mais par des cours supérieures. La Cour supérieure de justice de leur région, pour les parlementaires des communautés autonomes. La Cour suprême, pour les députés, pour les sénateurs. La procédure de l'affollamiento tente à prolonger les délais de la justice, déjà réputée très lente. Par exemple, le chef de file du Parti populaire, Pablo Casado, de droite, serait déjà mis en examen pour une affaire de master obtenue dans des conditions suspectes. Il le serait s'il n'était pas député. Sa condition de parlementaire oblige le juge d'instruction à demander à la Cour suprême de bien vouloir reprendre le dossier. Voilà le genre de pratique auquel Pedro Sanchez veut mettre fin, avec quelques bémols, car la fin de cette protection juridique ne s'appliquerait qu'aux délits non liés aux fonctions des élus. Conduire en état d'ivresse relèverait des tribunaux ordinaires, par exemple, mais on ignore encore quels tribunaux jugeraient les affaires de corruption. Sanchez a besoin de son grand adversaire, le Parti populaire, le PP, pour faire passer sa réforme. Il se donne 60 jours, soit le PP accepte, soit il devrait expliquer pourquoi il refuse de mettre fin à ce privilège des élus.
Le gouvernement français au chevet de l'hôpital. Le plan santé est annoncé ce matin par Emmanuel Macron. Il sera accompagné d'un effort budgétaire de 400 millions d'euros par an jusqu'en 2022. Un plan pour tenter d'en finir avec la saturation des urgences, avec un secteur psychiatrique en crise, des horaires à rallonge ou encore la situation compliquée des étudiants en médecine. Le numerus clausus sera donc supprimé, ce système qui limitait jusque-là le nombre d'étudiants admis en seconde année d'études de médecine. La rallonge budgétaire de 400 millions d'euros doit permettre entre autres la création de 4000 postes d'assistants médicaux pour permettre ensuite aux médecins libéraux de se concentrer davantage sur les soins en eux-mêmes. Témoignage ce matin d'une infirmière à l'hôpital de Chaumont-en-Vexin dans l'Oise. Elle est aussi déléguée du personnel. Colette Wolf regrette que l'hôpital doive prendre aujourd'hui en charge les défaillances dans d'autres structures, notamment les structures sociales, et ce, en milieu rural.
Il y a beaucoup de services qui incombent à l'État, qui sont défectueux, qui ne peuvent plus. Tout ce qui est social, ils sont saturés. Une personne âgée qui est retrouvée, qui a chuté chez elle, c'est insalubre, on l'emmène à l'hôpital, elle ne peut pas retourner chez elle. L'hôpital en fait quoi? Les personnes âgées, il n'y a plus de structure. Donc en attendant, elles restent à l'hôpital. Les SDF, ils se retrouvent à l'hôpital. Et quand ils sont à l'hôpital, comment les faire ressortir de l'hôpital? Donc en fait, l'hôpital sert de structure d'accueil pour des gens qui n'ont plus besoin de soins médicaux, sans financement. Si on avait le financement qui va avec une personne qui est là parce qu'on l'héberge, parce qu'il n'a plus de domicile, n'a pas de soins techniques, donc ne rapporte pas à l'hôpital. Vous n'en voyez jamais dans les cliniques. Les gens qui n'ont pas de couverture médicale, vous ne les voyez pas dans les cliniques, ils sont dans les hôpitaux. Mais s'ils n'ont pas de couverture, on ne peut pas être payé. Ça passe dans les insolvabilités. Il y en a de plus en plus.
Une infirmière, Colette Wolf, au micro d'Anne-Laure Chouin. Autant d'hommes que de femmes, une majorité de nouveaux en politique et des profils souvent entre économie et finance. 8 députés sont candidats pour succéder aujourd'hui à Richard Ferrand à la tête du groupe La République En Marche à l'Assemblée. 8 candidats plutôt que 10 au départ. Nous vous expliquerons pourquoi dans le journal de 7h. Avant cela, zoom sur la convention collective dans le secteur ferroviaire. La première séance de négociation commence aujourd'hui. Il s'agit de remplacer notamment le statut de cheminot pour tous les nouveaux embauchés à la SNCF à partir du 1er janvier 2020. Syndicats et représentants du patronat se retrouvent donc à partir d'aujourd'hui, un peu plus de 2 mois après la fin de la longue grève en pointillé à la SNCF. Et les discussions vont d'abord porter Raphaël Ebenstein sur les rémunérations et les classifications.
Patronat et syndicats ont recensé jusqu'ici près de 500 intitulés de métiers différents au sein de la branche ferroviaire, dont sans doute des doublons qu'il va falloir identifier pour définir une liste précise des emplois types. La tâche s'annonce colossale, d'où la demande syndicale de former au plus vite des groupes de travail techniques pour avancer entre 2 séances officielles de négociation. Plus généralement, l'idée est d'éviter tout dumping social entre les sociétés du secteur. Les syndicats veulent donc qu'il y ait des correspondances entre la future convention collective et le statut de cheminot que conserveront les anciens de la SNCF. Le patronat souhaiterait pour sa part davantage de polyvalence dans les métiers. Les syndicats militent pour la prise en compte de l'ancienneté dans les salaires ou dans l'avancement. Une chose est sûre, le calendrier des négociations s'annonce très serré de l'avis de tous les acteurs, puisque le gouvernement a fixé l'objectif de l'été 2019 pour aboutir.
Et à l'aube de ces discussions, il n'y a pas d'appel à la grève aujourd'hui à la SNCF, mais la CGT Cheminots organise des rassemblements dans des grandes villes en France pour faire pression sur le patronat. Comme moyen de transport, lui a vu grand, le milliardaire japonais Yusaku Maezawa. Il sera le premier passager privé à faire une promenade autour de la Lune, et ce grâce à la compagnie américaine SpaceX et son patron Elon Musk. Le japonais, fondateur d'un site de mode, invitera avec lui une demi-douzaine d'artistes. Voyage prévu, si les délais sont respectés, en 2023 autour de la Lune donc. La Lune à peine visible à l'aube ce matin à cause des nuages. Ils seront présents sur quasiment tout le territoire, entrecoupés d'éclaircies, entrecoupés aussi d'orages sur une partie de l'Aquitaine et le centre ce matin, puis sur tout le nord-est dans l'après-midi. Pour les températures, comptez 18 degrés à Brest, 22 à Paris, à Lille et à Bordeaux, 23 degrés ce matin à Strasbourg, 24 à Lille et 27 déjà à Marseille.